Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec le collectif Wooming 1 autour du livre Q comme complot, comment les fantasmes de complot défendent le système, paru aux éditions Luxe, le 13 septembre 2022 à la librairie Terra Nova.
Merci beaucoup d'être là. On est ravis d'accueillir donc Wooming 1 ce soir, membre du collectif Wooming, que présentera peut-être Alex Sanchez des éditions Luxe. Ah, d'accord. Donc on accueille Alex Sanchez, l'éditrice de chez Luxe, qui est installée en France, et Serge Quadopani, donc qui a traduit et qui posera des questions avec Anne Echnos, qui est ici. Voilà, donc il y a du monde ce soir pour le débat. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite.
Alors, bonsoir. D'abord, un point pratique. Roberto Bouy, Wooming 1, fait partie d'un collectif qui refuse d'être photographié et filmé. Alors, je vous prie de vous abstenir de manier vos portables pour le photographier. Voilà. Et par ailleurs, je suis très content d'être ici. Comme je vous disais, je suis très, très étonné, très agréablement surpris de démarrer une rencontre à l'heure, sans retard. C'est déjà assez extraordinaire. Et donc, à ma droite, Alexandre Sanchez, notre éditrice, dont nous avons découvert au cours des précédentes rencontres, qu'elle était meilleure interprète que moi. J'espère qu'elle ne va pas découvrir qu'elle est meilleure traductrice que nous, parce qu'Anne et moi, on va perdre notre boulot prochain bouquin édité. On s'est un peu réparti les rôles. Moi, je vais poser des questions un peu développées à Roberto. Et Alex fera la traduction simultanée avec l'aide de Anne, qui est discrètement placée au premier rang.
La souffleuse.
D'abord, un mot peut-être sur le collectif Wooming. Rapidement... De Wooming, on a quelques livres qui ont été publiés en France depuis 2007. Il y a eu deux livres. L'un s'appelait New Thing. C'était sur la naissance du free jazz aux États-Unis. Et l'autre, Guel Aliumani, et c'était sur quelqu'un qui voulait sortir de la société et vivre dans la forêt en autonomie. Et évidemment, il n'y arrivait pas. Donc, on découvrait déjà l'intérêt quelques-uns des intérêts qui ont continué à être très présent dans toutes les publications des Wooming. Et ensuite, on a publié ces deux titres, c'était chez Métellier, et le troisième titre qu'on a publié, c'est Manitouane, un très, pour moi, c'est vraiment un roman qui est très cher à mon cœur. C'est l'histoire de la guerre d'indépendance des États-Unis vue du côté des perdants, c'est-à-dire les Amérindiens. Et donc, voilà. Après, il y a eu aussi Étoile du matin, Stella de la matine. Il y a Prolet Kult qui vient de sortir, qui a été traduit par Anne Echnoz. Et donc, voilà. Mais ça ne donne qu'une toute petite idée de l'activité de ce collectif que je connais depuis une vingtaine d'années. Donc, le Wuming est un collectif d'auteurs basé à Bologne, qui était 5, qui ne sont maintenant plus que 3. Et en fait, ils étaient issus d'un collectif beaucoup, beaucoup plus large qui s'appelait Luther Blissett Project, qui, à la fin des années 90, s'est distingué par une série de canulars qui visaient à moquer les médias, les paniques morales et la fabrication de l'opinion par les médias. Et c'est un nom qui a en fait servi à des revendications qui a représenté plusieurs centaines de personnes. Tu me dis si je me trompe. Alors Roberto dit qu'il ne parle pas français, mais en tout cas il le comprend très bien et il préfère s'exprimer en italien. Donc ne vous inquiétez pas, il comprend tout ce que je dis. Si je dis des bêtises, il me le dira. Et donc ce collectif, Luther Blissett Project, a donné naissance ensuite à dans le groupe de ces gens qui se rencontraient, qui montaient des actions, il y en a 5 qui ont eu envie d'écrire un roman. Et ce roman s'appelait Q en italien, ce qui veut dire Q en français. Et ça n'a pas été traduit sous ce titre parce que quand on met sur la couverture Q, vous comprenez qu'il risque d'y avoir une incompréhension de la part du lecteur qui pense qu'il va peut-être lire quelque chose qui a rapport avec l'assonance Q, donc qu'il va y avoir du Q. Donc ça a été traduit sous le titre L'œil de Carafa, au seuil. Voilà, et donc ce livre Q ressurgit aujourd'hui d'une certaine manière. Et c'est par ça qu'on va commencer, puisque en fait ce ressurgissement est en quelque sorte le prétexte du livre. Raconte-nous.
Per prima cosa, buonasera a tutte e a tutti. Come diceva Serge, parlerò in italiano.
Alors bonsoir pour commencer à toutes et à tous. Et comme le disait Serge, je vais parler en italien.
Perché il mio francese è troppo rudimentale per questi argomenti.
Parce que mon français est trop rudimentaire pour ce genre de discussion.
Il pretesto che mi ha portato a scrivere Q comme complot è anche parte del testo.
Le prétexte qui m'a mené à écrire Q comme complot est aussi une partie du texte.
Perché il libro è anche la storia di come il libro è stato scritto.
Parce que le livre est aussi l'histoire de comment le livre a été écrit.
Nella primavera del 2018 diverse persone hanno cominciato a scrivere a noi, al collettivo Wuming.
Au printemps 2018, différentes personnes ont commencé. 2018, oui, c'est ça. Des personnes ont commencé à nous envoyer des messages au collectif Wuming.
Dicendoci di dare un'occhiata a quello che stava succedendo nella destra americana perché aveva qualcosa a che fare con noi.
Nous disant de regarder un peu ce qui est en train de se passer dans la droite américaine parce que il y avait quelque chose qui avait l'air d'avoir un lien avec nous.
Si riferivano a questo movimento QAnon che da pochi mesi era diventato molto popolare in America.
Il faisait référence à ce mouvement QAnon qui depuis quelques mois était en train de devenir très très populaire aux États-Unis.
un movimento cospirazionista che si era formato alla fine del 2017.
Un mouvement conspirationniste qui s'était formé à la fin de l'année 2017.
E i cui esponenti cominciavano in quei mesi ad apparire ai comizi di Donald Trump e alle iniziative del Partito Repubblicano Americano.
Dont les membres commençaient à faire surface et apparaître dans les meetings, merci, j'allais dire rallye, ça n'a rien à voir, meeting de Donald Trump et du Parti Républicain.
Siamo andati a controllare ed effettivamente quello che abbiamo scoperto ci ha inquietati.
Et donc on est allé vérifier et effectivement ce qu'on a découvert nous a un peu inquiété.
Perché abbiamo scoperto nella narrazione che aveva dato vita a QAnon molte coincidenze con la trama del nostro romanzo Q.
Parce qu'on a découvert dans la narration autour de QAnon beaucoup de coïncidences avec notre roman Q, l'œil de Carafa.
Nell'ottobre del 2017 su un forum di nome 4chan, molto frequentato dalla cosiddetta alt-right, la destra alternativa americana.
En octobre 2017 sur la plateforme 4chan qui était très fréquentée par l'extrême droite américaine, alt-right,
un anonimo ha cominciato a pubblicare messaggi misteriosi molto criptici.
Un anonyme a commencé à publier des messages très mystérieux, très cryptiques.
Firmati con la lettera Q.
Signé de la lettre Q.
Questo anonimo diceva di essere un alto funzionario governativo.
Cet anonyme prétendait être un haut fonctionnaire du gouvernement.
E di essere in possesso di informazioni estremamente riservate.
Et de posséder des informations extrêmement confidentielles.
Di avere come missione la divulgazione graduale di queste informazioni
e d'avoir comme mission la divulgation progressive de ces informations petit à petit
per preparare un nocciolo duro di patrioti, di rivoluzionari a quel che stava per accadere.
Pour préparer un noyau dur de patriotes à ce qui allait arriver, à ce qui était imminent.
Una delle notizie che dava era che era imminente l'arresto di Hillary Clinton e la sua deportazione a Guantanamo.
Une des nouvelles qu'il annonçait, c'était que Hillary Clinton allait très bientôt être arrêtée et déportée à Guantanamo.
Questo arresto e deportazione era parte di una grande operazione che si può definire un colpo rivoluzionario da parte di Trump.
Cette arrestation faisait partie d'une gigantesque opération qu'on pouvait qualifier d'opération révolutionnaire de la part de Trump.
Che veniva chiamata The Storm, la tempesta.
Qui s'appelait The Storm, la tempête.
25.000 mandati di arresto erano già pronti per i nemici politici di Trump.
25.000 mandats d'arrestation étaient prêts pour les ennemis politiques de Trump.
Che corrispondevano all'organigramma di quello che era chiamato lo stato profondo, deep state.
Qui correspondait à l'organigramme de ce qu'on appelait l'état profond, le deep state.
Trump avrebbe sconfitto lo stato profondo e dopo ci sarebbe stata una nuova epoca chiamata The Great Awakening, il grande risveglio.
Donc Trump était censé défaire, comment dire, abolir l'état profond et faire naître ce qui viendrait, l'ère qui viendrait après, qui s'appelle le grand réveil, The Great Awakening.
Nel nostro romanzo Q, un anonimo spedisce lettere misteriose, criptiche, firmate con la lettera Q.
Dans notre roman L'œil de Carafa, Q, un anonyme envoie des lettres mystérieuses signées de la lettre Q.
Sostiene di essere molto ben posizionato dentro la struttura di potere.
Il prétend être très très bien placé dans la structure de pouvoir.
In quel caso si tratta della struttura di potere dei principati tedeschi del XVI secolo.
Dans ce cas-là, il s'agit des structures de pouvoir des principautés allemandes du XVe siècle.
Q sostiene di avere informazioni molto riservate.
Q, le personnage, donc, prétend avoir des informations très confidentielles.
E di volerle divulgare a una comunità di rivoluzionari.
et de vouloir les égrener petit à petit à une communauté de révolutionnaires.
In quel caso i rivoluzionari erano i contadini insorti in Germania nel 1524.
Dans ce cas-ci, il s'agit des paysans insurgés en Allemagne en 1524.
Sotto la guida spirituale e politica di Thomas Müntzer.
Dirigé sous la guida politica, dirigé par Thomas Müntzer.
Era imminente una battaglia finale tra le forze del bene e le forze del male.
Allait bientôt arriver une bataille entre les forces du bien et les forces du mal.
E dopo la vittoria delle forze del bene ci sarebbe stato un grande risveglio.
Et après la victoire des forces du bien arriverait le grand réveil.
Le coincidenze tra il prologo, l'antefatto di QAnon e il nostro romanzo erano numerose.
Les coïncidences entre ce préambule de QAnon et notre roman étaient nombreuses.
E nell'approfondire QAnon, noi ci siamo anche sentiti interpellati in un altro modo.
Dans nos recherches sur QAnon, en approfondissant nos recherches sur QAnon, on s'est senti interpellé d'une autre façon en plus.
Intorno a questi messaggi criptici e misteriosi si è formata una comunità.
Autour de ces messages cryptiques s'est formée une communauté.
Una comunità di interpreti di quei messaggi.
Une communauté d'interprètes de ces messages.
Quello è stato il primo nucleo del movimento QAnon.
Et ça a été le premier noyau du mouvement QAnon.
Non, nessuno sa chi sia stata quella persona che ha cominciato a scrivere i messaggi.
Personne ne sait qui a été la première la personne a commencé à écrire ces messages.
Si sa solo che dopo poco tempo ha smesso di scrivere.
On sait seulement que cette personne-là a arrêté d'écrire après peu de temps.
E i messaggi firmati Q successivi al dicembre del 2017 sono scritti da un'altra persona.
Et les messages envoyés sous Q après décembre 2017 ont été écrits par une autre personne.
È proprio nel dicembre del 2017 che QAnon comincia a uscire da 4chan e arrivare su YouTube, su Facebook, su Twitter.
Et c'est justement en décembre 2017 que QAnon déborde de 4chan et commence à apparaître sur YouTube, Facebook e compagnie.
E intorno al lavoro di interpretazione, di esegesi dei messaggi di Q nasce una grande narrazione.
Et autour de toute cette exégèse des messages de Q naît une grande narration, un grand récit.
In questa grande narrazione gli Stati Uniti sono governati segretamente da una setta.
Dans cette narration, les États-Unis sont secrètement dirigés par une secte.
Una setta di pedofili satanisti.
Une secte de pédophiles satanistes.
Che viene chiamata la Cabale.
Qui s'appelle la Cabale.
E che corrisponde al Deep State.
Qui correspond au Deep State.
La Cabale tiene prigionieri sottoterra in basi segreti migliaia o forse milioni di bambini.
La Cabale donc a emprisonné des milliers voire des millions d'enfants dans des souterrains.
E questi bambini vengono torturati e violentati ogni giorno.
Des enfants qui seraient torturés et violés tous les jours.
In modo che il loro sangue sia molto carico di adrenalina.
Pour que leur sang soit très chargé d'adrénaline.
E questo sangue poi viene prelevato e viene bevuto dai membri della Cabal come elisir di forza e giovinezza.
Et donc le sang de ces enfants serait extrait et bu par les membres de la Cabal comme elixir de jeunesse.
A bere questo sangue sono Hillary Clinton, Obama e Michelle Obama, Tom Hanks e vari personaggi dell'establishment liberal.
Donc vous avez entendu les noms de tous ces gens qui étaient censés boire le sang des enfants, Hillary Clinton, Leo Obama, Tom Hanks.
Trump è stato scelto dalle forze del bene che vengono chiamati i cappelli bianchi.
Trump a été choisi par les forces du bien qui sont les chapeaux blancs.
Per sconfiggere i cappelli neri che sono i pedosatanisti.
Pour mettre en échec les chapeaux noirs qui sont les satanistes.
Già nella primavera del 2018 negli Stati Uniti milioni di persone credevano a questa narrazione.
Déjà au printemps 2018, des millions de personnes croyaient cette narration. Aux États-Unis.
Al centro di questa narrazione noi abbiamo trovato una nostra vecchia conoscenza.
Au centre de cette narration, nous avons retrouvé une vieille connaissance à nous.
Una leggenda urbana nata negli anni 70 ma con radici antichissime.
Une légende urbaine née dans les années 70 mais avec des racines très anciennes.
Che era già stata al centro di altre fantasie di complotto in passato.
Qui a déjà été au centre de plein de fantasmes de complot dans le passé.
Ed è chiamato abuso rituale satanico.
E ça s'appelle l'abus rituel satanique.
Negli anni 80 ci fu un'ondata di panico morale e di isteria di massa sull'abuso rituale satanico.
Dans les années 80, il y a eu une panique morale autour de la question du pédosatanisme et de l'abus rituel satanique.
In tutti gli Stati Uniti centinaia o forse migliaia di persone furono arrestate con l'accusa di aver commesso questo genere di abusi.
Aux États-Unis, des centaines voire des milliers de personnes ont été arrêtées, accusées d'avoir fait commis des actes de rituels sataniques
su bambini.
Sur des enfants.
E oggi, a distanza di 40 anni, buona parte di quelle condanne sono state annullate.
Aujourd'hui, bon, 40 ans plus tard, on peut dire que la plupart de ces accusations ont été annulées.
Ed è riconosciuto proprio storicamente che si trattò di un fenomeno di panico morale di massa.
Et on reconnaît qu'il s'agissait en fait d'un phénomène de panique morale de masse.
Negli anni 90 questo panico satanico attraversò l'Atlantico.
Dans les années 90, cette panique satanique a traversé l'Atlantique.
E vi furono casi in tutta Europa, soprattutto dopo la scoperta dei crimini del serial killer belga Marc Dutroux.
Donc il y a eu des cas un peu partout en Europe, surtout après l'affaire Dutroux.
Soprattutto nel biennio 1996-1997 ci fu un'ondata di isteria di massa in tutta Europa sulla pedofilia.
En 96-97 il y a eu une vague en Europe d'isterie de masse sur la pédophilie.
E sul satanismo.
E sur le satanisme.
Nella nostra città, Bologna, ci fu un caso celebre, rimasto famoso in Italia.
Dans notre ville, à Bologne, il y a eu un cas célèbre.
Il caso dei bambini di Satana.
Le cas des bambini di Satana, les enfants de Satan.
Tre persone completamente innocenti furono arrestate e rimasero in carcere un anno e mezzo in isolamento.
Trois personnes ont été arrêtées dans cette affaire et mises en prison à l'isolement pendant un an et demi.
Mentre fuori tutti i media li diffamavano e criminalizzavano.
Pendant que à l'extérieur tous les médias les diffamaient et les criminalisaient.
Nel 1996 noi all'epoca Luther Blissett Project.
En 1996, nous à l'époque, Luther Blissett Project,
avviamo una campagna di solidarietà e di controinformazione su questo caso.
Lançons une campagne de solidarité de contre-information sur ce cas.
Per dimostrare che l'impianto accusatorio che teneva in prigione quelle persone era basato su una leggenda urbana.
Pour démontrer que l'accusation envers ces personnes reposait sur une légende urbaine.
E portammo avanti una campagna con dei mezzi consueti e con altri piuttosto eterodossi.
On a mené une campagne avec des moyens plutôt habituels et d'autres un peu plus hétérodoxes.
E questi mezzi eterodossi erano i famosi canular a cui si riferiva Serge nell'intervento iniziale.
Et ce sont ces méthodes un peu hétérodoxes auxquelles se référait Serge quand il parlait des canulars.
E adesso non voglio dilungarmi proprio su tutti questi canular, ma di fatto noi ci inventammo una setta satanica e inventammo anche un comitato cristiano di cacciatori di satanisti.
Je veux pas vous en dire trop et aller trop long, parler trop longtemps de ça, mais nous on s'est inventé une secte satanique et aussi une secte de chasseurs chrétiens de satanistes.
Attirammo in trappola i media che cominciarono a pubblicare false notizie su questi due gruppi.
On a tendu des pièges aux médias qui écrivaient des fausses nouvelles sur ces deux groupes.
E poi rivendicammo la responsabilità di tutte quelle false notizie.
Et après nous avons revendiqué la responsabilité de toutes ces fausses nouvelles.
E lo scopo era dimostrare che era troppo facile creare panico satanico.
Le but était de démontrer qu'il était vraiment trop facile de créer une panique satanique.
Nel frattempo producemmo molta documentazione sulla storia dell'abuso rituale satanico.
Entre-temps, on a publié beaucoup d'informations sur l'histoire du rituel de l'abus rituel satanique.
E sui numerosi errori giudiziari che aveva già provocato.
Et sur les nombreuses erreurs judiciaires qui avaient été causées dans ce.
All'epoca pubblicammo un libro su questa vicenda, però fummo denunciati per diffamazione dal giudice del processo.
On a publié un livre sur cette chose, mais on a été poursuivi mais en diffamation par le juge qui était en cause.
Dal magistrato che rappresentava l'accusa.
Le magistrat, l'avvocat de la le procureur.
I tre innocenti comunque furono assolti anche grazie al nostro lavoro.
Et les trois innocents ont été acquittés entre autres grâce à nous.
Ultima cosa, quindi, tanti anni dopo ritrovavamo l'abuso rituale satanico con cui ci eravamo già confrontati al centro della narrazione di QAnon che sembrava citare il nostro romanzo.
Donc pour finir, de nombreuses années plus tard, on a retrouvé l'abus rituel satanique au cœur de QAnon dans une narration qui semblait par ailleurs citer notre roman.
E quindi abbiamo cominciato a fare inchiesta sul fenomeno e poi è diventata un'inchiesta sul fenomeno più vasto del cospirazionismo. Et en particulier, moi, j'ai décidé d'écrire ce livre.
Donc, on a commencé à mener une enquête sur le mouvement et puis plus largement sur le conspirationnisme. Et puis, voilà, j'ai décidé d'écrire ce livre.
Oui, on a compris qu'en fait, vous aviez déjà, d'une certaine manière, fait un travail qui était un prologue à ce livre, qui a été un travail... qui t'a servi. Mais alors, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que c'est un livre qui raconte comment le livre se fait. Alors, il faut vous dire d'abord que ce n'est pas du tout un essai classique comme un jardin à la française, avec une introduction, un développement, une conclusion. Mais c'est un livre foisonnant. Et dans ce livre foisonnant, Roberto raconte comment il s'est trouvé confronté à cette question. Mais qu'est-ce que c'est que ces coïncidences ? Et il a commencé à plonger commencé à vouloir faire une espèce de généalogie du conspirationnisme. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça d'ailleurs que tu te en ces termes-là que tu te l'es posé, mais en tout cas. C'est le travail vers lequel tu t'es dirigé. Mais ce qui est intéressant, c'est que au cours de ce travail, tu racontes que tout à coup, tu t'es dit « Mais il y a un problème, il y a un problème de concept, il y a un problème de vocabulaire. » Par exemple, il y a, un terme qui est très utilisé par les... antiques conspirationnistes classiques comme en France des Taguieff ou les journalistes, les débunkers, les du type fake news, qui s'en prennent aux fake news. Il y a Conspiracy Watch, des gens comme ça. C'est le terme de théorie du complot. Et pour toi, le terme de théorie du complot était très insuffisant et trompeur. Donc, j'aimerais que tu nous expliques ça et que tu, du coup, après, tu nous expliques quel concept tu as trouvé important de forger.
Oui. L'espressione théorie del complotto è sempre connotata negativamente e denigratoria.
L'expression théorie du complot est toujours dénotée négativement, elle est péjorative.
Ma in realtà, in sé e per sé, non c'è nulla di male nell'avere una teoria su un complotto.
Mais en réalité, en soi, il y a rien de mal à avoir une théorie sur un complot.
Perché i complotti esistono.
Parce que les complots, ça existe.
Mentre l'anticospirazionismo, diciamo, liberale, pseudo-illuminista, è arrivato a negare che esistano complotti.
Alors, même si l'anticonspirationnisme libéral, pseudo des Lumières, a réussi à faire croire qu'il n'existait pas de complot.
Et invece, i complotti avvengono continuamente.
Mais en vérité, les complots, il y en a souvent, continuellement.
Perché ci sia un complotto basta che più di una persona si mettano d'accordo all'insaputa di una terza per arrecare danno a questa terza persona.
Pour qu'il y ait un complot, faut que plus d'une personne se mette d'accord, donc plusieurs personnes, plus d'une, se mette d'accord pour nuire à une troisième personne, à son insu.
Io vengo dall'Italia, l'Italia è un paese la cui politica è stata completamente plasmata da complotti.
Moi je viens d'Italie dont la politique a été forgée par les complots.
Anche complotti su vasta scala.
Et des complots à grande échelle.
Negli anni 70 abbiamo avuto la cosiddetta strategia della tensione.
Dans les années 70, on a eu ce qui s'appelle la stratégie de la tension.
Che altro non era che una concatenazione di tanti complotti.
Qui était une chaîne de complots.
orditi da settori del governo, settori dei servizi segreti e terrorismo neofascista.
Ourdi par un groupe mélangeant des membres du gouvernement, des membres des services secrets et des membres des fascistes.
Per compiere degli attentati contro la popolazione civile.
Pour commettre des attentats contre la population civile.
A scopi allo stesso tempo di stabilizzazione e destabilizzazione.
Avec un objectif qui mêlait un objectif de stabilisation et de déstabilisation.
È una verità oggi riscontrata dagli storici, documentata.
C'est une vérité aujourd'hui reconnue par les historiens, documentée.
Che già allora fu denunciata da i movimenti sociali dell'epoca.
Qui déjà à l'époque était dénoncé par les mouvements sociaux de l'époque.
Che condussero diverse inchieste di massa.
Qui ont mené plusieurs enquêtes de masse.
Quelle inchieste erano teorie su un complotto.
Et ces enquêtes étaient des théories sur un complot.
Erano teorie giuste su un complotto vero.
C'était des théories correctes, justes, sur un véritable complot.
Allora c'è un problema con questa espressione.
Alors il y a un problème avec cette expression.
Perché bisogna distinguere tra i complotti reali e i complotti allucinati, fantasmati, universali che di solito associamo al termine cospirazionismo.
Parce qu'il faut faire la différence entre les complots réels et les complots hallucinés, rêvés, universalisés qu'on appelle le conspirationnisme.
Che differenza c'è tra complotti come la strategia della tensione e il Watergate o il complotto pluto-giudaico-massonico o quello della cabale di QAnon?
Qu'est-ce qui distingue le complot du Watergate ou de la stratégie de la tension du complot judéo-massonique ou celui de la cabale?
Mi sono posto il problema di come distinguerli.
Je me suis posé la question, donc comment les distinguer?
E mi sono reso conto che avevamo bisogno di concetti nuovi per parlare di cospirazionismo.
Et je me suis rendu compte qu'on avait besoin de nouveaux concepts pour parler de conspirationnisme.
Allora ho catalogato molti complotti politici reali documentati.
Donc j'ai fait la liste d'un tas de complots politiques réels documentés.
E ho cercato di isolare le caratteristiche base che avevano in comune.
Et j'ai cherché à isoler, à identifier leurs caractéristiques communes.
Poi ho preso diversi fantasmi di complotto tra i più noti.
Après, j'ai pris plusieurs fantasmes de complot parmi les plus connus.
E ho fatto la stessa cosa.
Et j'ai fait la même chose.
E mi sono reso conto che ciascuna caratteristica della seconda lista era il rovescio della corrispondente nella prima.
Je me suis rendu compte que chacune des caractéristiques de la deuxième liste était l'exact inverse, l'exact opposé de celle de la première liste.
Allora, i complotti reali hanno sempre un focus preciso e sono abbastanza facilmente riassumibili.
Alors les complots réels ont toujours un centre, un objectif facile à identifier.
Sono
et sì. Peuvent être facilement sì. Réalisés. Résumé, pardon.
Résumé. Sono messi in pratica da un numero definibile, limitato di soggetti.
Ils sont mis en pratique par un nombre défini de sujets.
Può essere anche un numero vasto, ma comunque un numero è definibile.
Et ça peut être un grand nombre de personnes, mais c'est un numéro défini, un nombre.
I complotti reali sono messi in pratica in modo imperfetto.
Les complots réels sont mis en pratique de manière imparfaite.
Ci sono sempre degli errori, c'è qualcuno che fa la spia.
Il y a toujours des erreurs, il y a un espion, une taupe.
Qualcuno che lascia delle tracce che non doveva lasciare.
Quelqu'un qui laisse des traces qu'il ne devait pas laisser.
E quando vengono scoperti e denunciati i complotti reali cessano.
E quand ils sont découverts, les complots réels s'interrompent, cessent.
A scoprirli non è mai un cospirazionista.
Et ce n'est jamais un conspirationniste qui les découvre.
I complotti di cui mi sono occupato sono stati scoperti da inchieste di massa dei movimenti.
Les complots auxquels je me suis intéressé ont été révélés par des enquêtes de masse de mouvements.
Da reportage di giornalismo investigativo.
De reportage de journalistes d'enquête.
O addirittura da commissioni parlamentari.
Ou carrément par des commissions parlementaires.
Una volta che cessano, questi complotti invecchiano insieme alla loro epoca storica.
Une fois qu'ils cessent, ces complots vieillissent avec leur époque.
Cioè sono parte di un preciso contesto storico e sociale.
Ils font partie d'un contexte historique et social très précis.
E quando ne parliamo, parliamo anche di quell'epoca.
Et quand on en parle, on parle aussi de cette époque.
Non a caso ho detto la strategia della tensione degli anni 70.
C'est pas pour rien que j'ai dit la stratégie de la tension des années 70.
Ecco, queste sono le caratteristiche base dei complotti reali.
Ça, c'est les caractéristiques de base d'un complot, des complots réels.
Invece, i fantasmi di complotto non hanno un focus ben preciso, ma riguardano sempre il dominio dell'intera realtà.
Mais alors, les fantasmes de complot, pour leur part, n'ont pas un centre d'intérêt précis. C'est toujours, ils visent toujours la domination de la réalité.
Il dominio dell'intero pianeta.
De toute la planète.
Et quindi questi complotti corrispondono all'intera realtà.
Donc ces complots correspondent à toute la réalité.
E sono messi in pratica, per come vengono raccontati, da un numero potenzialmente infinito di soggetti.
Ils sont mis en pratique par un nombre potentiellement infini de sujets.
Che continua ad aumentare di resoconto in resoconto.
Qui continue d'augmenter, qui augmente au fur et à mesure qu'on s'en rend compte, qu'on les raconte.
Sono messi in pratica questi complotti in maniera perfetta, impeccabile.
Ils sont mis en pratique de manière parfaite, impeccable.
Non c'è mai un errore.
Il n'y a jamais une erreur.
Non c'è mai una contraddizione.
Jamais de contradiction.
Tutto quello che succede era previsto dal piano.
Tout ce qui arrive, c'était prévu par le plan. C'était dans le plan.
Questi complotti vengono continuamente denunciati.
Ils sont continuellement dénoncés.
C'è un'intera industria che fiorisce sulla denuncia di questi complotti.
Il y a toute une industrie qui fleurit autour de la dénonciation de ces complots.
Libri, video monetizzati su YouTube, film.
Des livres, des vidéos payants, des films.
T-shirts, tazze.
Des t-shirts, des tasses, des mugs.
QAnon ha portato questa industria a un livello mai raggiunto prima.
QAnon ha mené cette industrie à des niveaux qui avaient jamais été vus avant.
Eppure, a differenza di quel che accade con i complotti reali, questi complotti, anche se vengono denunciati, non cessano.
Mais contrairement aux complots réels, ces complots-là, quand on les dénonce, ils n'arrêtent pas.
Proseguono.
Ils continuent.
Et con una contraddizione.
Avec une contradiction.
Com'è possibile che questi complotti che prevedono tutto e tutto controllano?
Comment est-il possible que ces complots qui prévoient tout, qui contrôlent tout,
permettano che libri, video monetizzati su YouTube, film, eccetera, denuncino i loro complotti?
Permettent que des livres, des complots, des livres, des films, des mugs dénoncent leurs complots.
Per fare un esempio, i rettiliani controllano tutto il pianeta.
Faisons un exemple, les reptiliens contrôlent la planète.
Eppure David Icke fa un sacco di soldi scrivendo libri denunciando i rettiliani.
Mais David Icke fait une fortune en écrivant des livres qui dénoncent les reptiliens.
Perché i rettiliani glielo consentono?
Pourquoi est-ce que les reptiliens le laissent faire?
Forse anche David Icke fa parte del complotto dei rettiliani.
Peut-être que David Icke est reptilien.
Vedete che la logica è circolare.
Voilà, la logique est circulaire.
Io ho detto i rettiliani, ma vale per le scie chimiche, per il complotto giudaico, per qualunque cosa.
J'ai parlé des reptiliens, mais ça marche aussi pour les traînées chimiques dans le ciel, pour le complot judéo-massonique.
E questi complotti non sono associati a una precisa epoca storica. Sono eterni, trascendono ogni epoca.
Ces complots donc ne sont pas aussi associés à une époque précise. Ils transcendent l'histoire, ils sont intemporels.
In alcune sue versioni, il complotto giudaico massonico dura da 2000 anni.
Dans certaines de ces versions, le complot judéo-maçonnique date depuis 2000 ans.
Nel suo piccolo, anche QAnon dice che la cabale è al potere da quando è morto John Fitzgerald Kennedy.
Dans son apogée, QAnon dit que chi è au pouvoir de la cabale est au pouvoir depuis la mort de John F. Kennedy.
Cioè, sono già un bel po' di anni.
Ça fait déjà un certain nombre d'années.
Perché queste fantasie di complotto, quando nascono, poi continuano a propagarsi e non hanno una fine.
Parce que ces fantasmes de complot, quand ils naissent, ils continuent de se propager et ils n'ont pas de fin.
Quindi la lista delle caratteristiche dei fantasmi di complotto è esattamente il rovescio della lista delle caratteristiche dei complotti veri.
Donc, comme je disais, la liste des caractéristiques des fantasmes de complot sont vraiment l'opposé exact de la liste des caractéristiques des véritables complots.
Quindi ho usato due concetti al posto di teoria del complotto.
Alors, j'ai amené deux concepts pour remplacer l'expression théorie du complot.
Ipotesi di complotto per i complotti reali e fantasma de complot per i complotti immaginari.
Ipotesi di complot pour les complots réels et fantasmes de complot pour les complots imaginés.
Da lì ho fatto tutto un altro lavoro di répertorio et invenzione di concetti.
Et donc de là, j'ai poursuivi mon travail de liste, de répertoire et d'invention de concepts.
Per rispondere a una domanda, se i fantasmi di complotto hanno così tanto successo nella società capitalistica?
Pour répondre à cette question, si les fantasmes de complot ont tant de succès dans la société capitaliste,
vuol dire che in questa società hanno una funzione.
Ça veut dire que dans cette société, ils ont une fonction, ils jouent un rôle.
Hanno una funzione sistemica.
Ils ont une fonction systémique.
Nell'economia politica.
Dans l'économie politique.
Che io non intendo in senso stretto, ma intendo anche economia politica dei segni, economia libidinale.
Que je n'entends pas dans son sens strict, mais que je, dans laquelle j'inclus aussi l'économie libidinale. E l'economia dei segni.
E quindi per approfondire questo aspetto ho portato avanti la ricerca e mi sono trovato a coniare ulteriori nuovi concetti.
Donc j'ai poursuivi ma recherche et j'ai forgé de nouveaux concepts.
Alors, ce qui est important, c'est que tout ce travail d'élaboration ne se fait pas dans le vide, mais il se fait à partir de quelque chose qui a un rôle essentiel dans les théories du complot, et en particulier dans les théories, enfin dans les théories du complot en général, les théories du complot, voilà que j'utilise le mauvais terme, dans les fantasmes de complot aussi contemporains, quelque chose qui a un rôle essentiel, c'est la culture populaire. Et ça, c'est très important parce que... Depuis le début, les Wu Ming, et même avant Luther Blissett, c'était vraiment leur terrain de jeu, c'est-à-dire de s'intéresser à tout ce qui est culture populaire, que ce soit la musique, les chansons, les textes des chansons, de s'intéresser aux littératures de genre, etc. Tout cela qui nourrit l'imaginaire des populations. Et c'est pourquoi dans ce livre, vous lirez des choses sur le film L'Exorciste ou sur la rumeur selon laquelle Paul McCartney est mort depuis 50 ans. Tout cela est pris à bras le corps parce que c'est le terreau, en quelque sorte, des récits, des narrations qui sont derrière les fantasmes de complot. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Robert ne se contente pas de faire un travail justement comme le font des gens comme Taguieff qui disent « Voilà, le complot judéo-maçonnique, ça remonte à telle époque, et puis après, ça réapparaît à telle époque, puis telle époque, etc. » Et qui le raconte un peu comme si c'était quelque chose d'éternel aussi, qui n'avait pas réellement une histoire. C'est-à-dire que la question à laquelle tente de répondre Robert et à laquelle il répond très largement, c'est pourquoi, à certains moments, ce fantasme de complot ressurgit et se cristallise et prend de la force, et pourquoi à d'autres moments il est seulement latent, il peut traîner dans les têtes ou dans la sous-littérature. Et c'est là que tu as forgé une nouvelle notion qui est celle de la singularité. Et j'aimerais bien que tu nous en parles.
Oui. Le fantasie di complotto convergono tutte insieme in un certo momento, e questo convergere, questa sintesi di tutte le fantasie di complotto in circolazione è chiamato singolarità cospirazionista.
Les fantasmes de complot convergent tous à un moment, et le moment de convergence de tous les complots, de tous les fantasmes de complot, s'appelle la singularité conspirationniste.
Questi momenti di convergenza e di singolarità corrispondono sempre a una grande crisi sociale.
Ces moments de convergence correspondent toujours à un moment de crise sociale.
E spesso sono una risposta a movimenti rivoluzionari.
Et ils viennent souvent en réponse à des mouvements révolutionnaires.
O a delle rivoluzioni.
Ou à des révolutions.
La prima singolarità cospirazionista dell'epoca moderna segue la rivoluzione francese.
La première singularité conspirationniste de l'époque moderne arrive juste après la Révolution française.
Perché si tratta di capire perché c'è stata la rivoluzione.
Parce que on essaie de comprendre pourquoi il y a eu cette révolution.
Il pensiero reazionario e controrivoluzionario dell'epoca non ha spiegazioni.
La pensée contre-révolutionnaire ne comprend pas pourquoi il y a eu cette révolution. Réactionnaire ne comprend pas pourquoi il y a eu cette révolution.
Il loro mondo è crollato in pochissimo tempo e loro non hanno strumenti per comprendere il motivo.
Il loro mondo s'est effondré d'un seul coup e eux, ils n'ont pas les instruments pour comprendre la raison de cet effondrement.
Oppure avrebbero qualche strumento, ma sono in stato di shock.
Oui, ils pourraient peut-être avoir les instruments, mais ils sont en état de choc.
A queste persone in stato di shock dà una risposta un personaggio che è l'abbé Augustin Barruel.
Donc à ces personnages qui sont en état de choc, l'abbé Augustin Barruel propose une réponse.
Barruel scrive una storia della rivoluzione francese in chiave cospirazionista.
Donc Barruel a écrit une histoire de la Révolution française en clé conspirationniste, en ton conspirationniste.
Un lavoro énorme in più volumi.
Un travail gigantesque en plusieurs volumes.
In cui mette insieme diversi soggetti storici, società segrete, religioni.
Dans lequel il mélange plusieurs personnages, des sociétés secrètes.
E li descrive come tutti attori di un gigantesco complotto.
E il est décrit comme les acteurs d'un gigantesque complot.
Cominciato addirittura nell'antica Persia.
Qui a commencé en fait dans l'antique Perse.
Che ha avuto come culmine la rivoluzione francese.
Qui a donc comme apogée la Révolution française.
Ci sono dei personaggi chiave, ci sono gli Illuminati.
Il y a des personnages clés, les Illuminati.
I massoni.
Les maçons.
I templari,
les templiers,
e più avanti in questo filone compariranno anche i giudei.
E plus loin dans ce filon là on verra apparaître les juifs.
Questa è una singolarità cospirazionista.
Ça c'est une singularité conspirationniste.
Ed è proprio una risposta allo sconvolgimento sociale portato dalla Rivoluzione francese.
Et c'est une réponse au bouleversement social qu'a causé la Révolution française.
Ma qui siamo ancora all'interno di un mondo di eruditi.
Mais on est encore là dans un monde d'érudits.
Invece nel XX secolo succede che questo fenomeno avviene nella cultura pop, nella cultura di massa.
Ce qui se passe au XXe siècle, c'est que ce phénomène rentre dans la culture populaire, dans la culture de masse.
Un esempio di singolarità cospirazionista si ha negli Stati Uniti alla fine degli anni 60 e inizio anni 70.
Un esempio di singolarità cospirazionista è aux États-Unis alla fine degli anni 60, début des années 70.
In risposta ai movimenti e agli sconvolgimenti sociali dell'epoca.
En réponse aux mouvements et aux bouleversements sociaux de l'époque.
La controcultura, il movimento contro la guerra nel Vietnam.
La contre-culture, les mouvements contre la guerre au Vietnam.
Le comuni hippie.
Les communes hippies.
Et Black Power.
Black Power.
Eccetera, eccetera. Il femminismo, molto importante.
Le femminisme qui est très important.
In risposta a queste sollecitazioni nascono delle fantasie di complotto.
En réponse à ces sollicitations naissent des fantasmes de complot.
L'anno chiave che io individuo nel libro è il 1969.
L'année clé que j'identifie dans le livre c'est 1969.
Un anno che è collegato negli Stati Uniti ai crimini della setta di Charles Manson.
Une année qui est liée aux États-Unis au crime de la secte de Charles Manson.
Che in qualche modo fanno dire al mainstream che il sogno hippie è diventato mortifero.
Bravo. Qui font dire au mainstream, aux médias mainstream que la culture hippie est mortifère.
È in questo momento che nasce il fenomeno a cui si riferiva Serge riguardante Paul McCartney, il movimento Paul is Dead.
Et c'est dans ces années-là que naît le mouvement auquel faisait référence Serge, le mouvement Paul is Dead, Paul est mort.
Proprio nell'autunno del 1969 in America migliaia di persone si convincono che Paul McCartney non è davvero lui ma è un suo sosia.
À l'automne 1969, donc des millions de personnes aux États-Unis se convainquent que Paul McCartney n'est pas vraiment Paul McCartney mais un sosie de Paul McCartney.
Il vero Paul McCartney è morto tre anni prima in un incidente stradale.
Le vrai Paul McCartney est mort trois ans plus tôt dans un accident de la route.
I Beatles hanno scelto un suo sosia per sostituirlo nella band.
Et les Beatles ont pris un sosie de lui pour le remplacer dans le groupe.
Però poi hanno avviato una sorta di caccia al tesoro, seminando indizi di questa verità nei loro dischi.
Mais après, ils ont lancé une espèce de chasse au trésor en semant des indices de cette vérité dans leurs disques.
Nei testi delle canzoni.
Dans les textes de leurs chansons.
Nelle copertine dei dischi,
sur les pochettes de leurs disques,
nei videoclip,
dans leurs clips,
e migliaia di persone cominciano a interpretare questi segni in maniera con uno stile paranoico, diciamo.
Des milliers de personnes commencent à interpréter tous ces signes de manière un peu paranoïaque.
Uno stile paranoico, sì, è importante lo stile.
Lo stile paranoiaque.
Perché non sono paranoici in senso clinico, è paranoico il loro stile.
Ils sont pas paranoïaques dans le sens clinique, c'est leur style qui est paranoïaque.
Cominciano addirittura ad ascoltare i dischi al contrario in cerca di messaggi registrati a rovescio, messaggi subliminali.
Donc ils commencent à écouter les disques à l'envers, à la recherche de messages gravés à l'envers dans la...
Ad esempio, dicono che in una canzone a rovescio si sente dire «Oh, sepolto Paul, mi manca, mi manca, mi manca».
Par exemple, dans une chanson qu'ils écoutent à l'envers, ils prétendent entendre «J'ai enterré Paul, il me manque, il me manque, me manque».
All'inizio parte come un gioco, una sorta di gioco di società, ma poi diventa qualcosa di più serio.
Au début, ça commence un peu comme un jeu de société, mais après ça devient plus sérieux.
Perché questa moda di ascoltare i dischi al contrario poi avrà successo nella destra fondamentalista cristiana americana.
Parce que cette mode d'écouter les disques à l'envers va finir par devenir à la mode dans le mouvement de droite chrétienne américaine.
Che però non cerca indizi sulla morte di Paul McCartney, ma cerca messaggi satanici.
Mais qui ne cherche pas des indices de la mort de Paul McCartney, qui cherche des messages sataniques.
A rafforzare questa tendenza è il film L'Esorcista.
Et ce qui a renforcé cette tendance, c'est le film L'Exorciste.
Dove ad un certo punto la ragazzina posseduta dal demonio parle a rovescio.
Dans lequel la petite fille qui est possédée par le démon, si vous vous souvenez bien, parle à l'envers.
Il film L'Esorcista fa parte di questa risposta culturale reazionaria ai movimenti.
Le film L'Exorciste fait partie de cette réponse réactionnaire à la culture de l'époque.
Perché la storia del film è finalizzata a castigare una famiglia non tradizionale.
Parce que l'histoire du film, en fait, c'est la punition d'une famille qui n'est pas traditionnelle.
Una famiglia dove non c'è più l'uomo di casa.
Une famille dans laquelle il n'y a plus l'homme de la maison.
C'è la madre che sta divorziando insieme alla figlia.
Il y a une femme qui est en cours de divorce avec sa fille.
E poi c'è un filo rosso sessuofobico.
Et il y a un fil rouge sexophobe.
Et l'héroe del film est un prete jésuite psichiatra.
Et le héros du film est un prêtre jésuite psychiatre.
Dal grande successo dell'esorcista in avanti parte una nuova convergenza di narrazioni e sottonarrazioni.
Donc du succès de l'exorciste par une nouvelle convergence de narration et de sous-narration.
Che darà proprio vita a quel panico satanico di cui parlavo all'inizio.
E qui farà naître la panique satanique dont je parlais au début.
Ma tutto questo nasce in risposta ai movimenti e alle lotte degli anni 60 in America.
Mais tout ça naît en réponse aux mouvements et aux luttes des années 60 aux États-Unis.
In un'altra presentazione mi è capitato di citare questo aforisma che viene attribuito a Walter Benjamin, ma in realtà è un po' una parafrasi.
Dans une présentation, j'ai cité cet aphorisme qui est attribué à Walter Benjamin, mais qui en vérité est une paraphrase.
Cioè, il fascismo è sempre il risultato di una rivoluzione fallita.
Le fascisme est toujours le résultat d'une révolution manquée.
È una frase molto più complessa di quel che sembra.
C'est une phrase beaucoup plus complexe que ce qu'elle semble être.
Perché il primo significato è che in risposta alla rivoluzione che non riesce a compiersi arriva il fascismo.
Le premier sens, c'est que en réponse à la révolution manquée arrive le fascisme.
Ma c'è un altro livello, all'interno dello stesso fallimento della rivoluzione nasce il fascismo.
Mais il y a un autre sens, c'est qu'à l'intérieur même de cet échec naît le fascisme.
Qui fascismo è chiaramente una figura retorica, sta per reazione.
Ici j'utilise fascisme comme une figure rhétorique, je veux dire réaction.
Ecco, questa frase ci dice anche che alcune soggettività che erano rivoluzionarie si déforment et transforment une réactionnaire.
Cette phrase veut dire que des subjectivités qui étaient révolutionnaires se déforment et deviennent qui étaient révolutionnaires deviennent réactionnaires en se transformant.
Mais en Italie, par exemple, uno dei leaders del movimento confessionale reazionario Comunione e Liberazione era il segretario di un partito marxista-leninista.
Un des leaders en Italie du mouvement réactionnaire chrétien avait été le chef d'un parti communiste socialiste.
Marxista-leninista, maoïste, un partito maoïste, Servire il Popolo, si chiamava.
Qui s'appelait Servire il Popolo, Servir le Peuple.
E questi sono aneddoti che tutti noi conosciamo, ma è ancora più complessa di così.
C'est des anecdotes qu'on connaît tous, mais c'est encore plus complexe que ça.
Negli anni 70, una serie di soggettività che avevano animato la controcultura hippie, diciamo così.
Dans les années 70, une série de subjectivités qui avaient animé la culture hippie.
Sono quelli che fondano la contemporanea industria del benessere.
C'est ceux qui fondent l'industrie du bien-être.
Perché delle pratiche, ad esempio di meditazione, di condivisione, che erano state collettive, comunitarie.
Parce que des pratiques de méditation qui étaient collectives.
Vengono trasmutate in pratiche individualistiche e pienamente dentro l'ascesa del neoliberismo.
Sont transformées en pratiques individualistes et sont coulées dans le modèle libéral. Dans l'ascension du modèle libéral.
Oggi noi vediamo che, ad esempio, QAnon fa molti proseliti nell'industria del benessere.
On voit aujourd'hui que QAnon a fait beaucoup de prosélytisme dans le milieu de nouveaux disciples dans le milieu du bien-être.
E negli Stati Uniti un centinaio di maestri di yoga hanno dovuto scrivere una lettera aperta contro QAnon.
Donc aux États-Unis, une centaine de professeurs de yoga ont dû écrire une lettre contre QAnon.
Perché vedevano che nella loro comunità allargata di maestri e discepoli di yoga QAnon aveva molto successo.
Parce qu'ils voyaient que QAnon avait beaucoup de succès dans leur communauté de professeurs et de pratiquants du yoga.
E questo è uno dei fenomeni di cui mi occupo anche nel libro, la convergenza tra cospirazionismo e New Age, chiamiamola così.
Et j'en parle beaucoup dans le livre de cette convergence entre conspirationnisme et New Age, pour le dire ainsi.
Diciamo che l'antico antefatto di questa convergenza è proprio nella sconfitta della controcultura degli anni 60.
Et donc l'ancêtre de cette convergence, c'est la défaite de la contre-culture des années 60.
È difficile, tanta roba.
En t'appuyant sur cette analyse de la généalogie du conspirationnisme, tu es amené aussi à te poser la question, tu reviens encore sur la question de comment parler du conspirationnisme et comment parler aux conspirationnistes, comment comprendre sur quelle économie libidinale, pour employer, à quel besoin répond le conspirationnisme et comment leur parler sans adopter justement cette attitude qui est très fréquente dans les défenseurs du statu quo, de dire simplement c'est des idiots, c'est des imbéciles, en prenant un ton de mépris. Pure e semplice.
Ok. Chiunque di noi può diventare un cospirazionista.
Chacun de nous peut devenir conspirationniste.
I cospirazionisti non sono altro da noi.
Les conspirationnistes ne sont pas différents de nous.
Non è possibile calare una sbarra, mettere una frontiera e dire qui ci siamo noi, che siamo quelli intelligenti e razionali, e dall'altra parte ci sono i barbari, gli ignoranti.
On peut pas faire tomber un mur et puis dire de ce côté-ci, il y a nous les intelligents et de l'autre les barbares.
Chiunque di noi, almeno una volta nella vita, ha creduto a un fantasma di complotto.
Nous avons tous, au moins un moment dans notre vie, cru à un fantasme de complot.
Poi magari non ci siamo fatti risucchiare, non siamo caduti in quello che nel libro chiamo la buca del coniglio.
Bon, après peut-être on n'est pas tous tombés dans ce que j'appelle dans le livre le terrier du lapin.
Ma ci abbiamo creduto.
Mais on y a cru.
Nel libro io dico che le fantasie di complotto sono narrazioni diversive.
Dans le livre j'explique que les fantasmes de complot sont des narrations diversives. De diversion.
De diversion. Intendo dire che sono critiche al potere che sbagliano bersaglio.
Ce que je veux dire, c'est que ce sont des critiques envers le pouvoir qui visent mal, qui visent pas la bonne cible.
Che se la prendono con capri espiatori.
Qui s'en prennent à des boucs émissaires.
Però fanno questo dopo aver risposto a delle domande importanti e giuste.
Mais ils font ça après avoir posé des questions importantes et justes et pour répondre après avoir répondu à des questions importantes et justes, pardon.
Sono risposte sbagliate a questioni sacrosante.
Ce sont des réponses erronées à des questions sacrosantes.
Domande che possono essere riassunte, volendo proprio semplificare al massimo, in una sola.
Des questions qui pourraient être résumées, s'il le faut, en une seule.
Che? Perché la mia vita è così di merda?
Qui est, pourquoi je vis une vie de merde comme ça?
Ed è una domanda che soprattutto negli ultimi due anni pandemici si sono fatti milioni e milioni di persone.
Et c'est une question que surtout depuis les années de la pandémie, il y a des millions et des millions de personnes qui se la sont posée.
Soprattutto durante l'angoscia del confinamento.
Surtout pendant l'angoisse du confinement.
Hanno cercato risposte.
Ils ont cherché des réponses.
Alcuni hanno deciso di prendere delle decisioni importanti per la loro vita.
Il y en a qui ont décidé de prendre des décisions importantes pour leur vie.
Milioni e milioni di persone in tutto l'Occidente stanno licenziandosi dal lavoro.
Il y a des millions et des millions de personnes qui sont en train de poser leur démission du travail en Occident.
In inglese si chiama the big quit, le grandi dimissioni.
En anglais, ça s'appelle the big quit, la grande démission.
Persone che negli Stati Uniti, in Italia, in Francia, dappertutto.
Des personnes qui aux États-Unis, en France, en Italie, un peu partout.
Decidono di lasciare il loro lavoro anche in assenza di alternative chiare.
Décident de quitter leur travail même s'ils n'ont pas quelque chose à la clé derrière.
Perché non ce la fanno più, non tollerano più di continuare a fare quel lavoro lì.
Parce qu'ils en peuvent plus, ils tolèrent plus de faire ce travail.
Non riescono più a vivere quella vita.
Ils réussissent plus à vivre cette vie.
Nel momento in cui ci si fa questa domanda, arriva il cospirazionismo.
Et au moment où on se pose ce genre de questions, arrive le conspirationnisme.
E ti dà spiegazioni e risposte molto nette.
E te donne des explications et des réponses très nettes.
Tu stai male, la tua vita è di merda perché c'è un complotto contro di te.
T'es mal, tu vis une vie de merde parce qu'il y a un complot contre toi.
Ma adesso che te l'ho detto, tu sai la verità.
Maintenant que je te l'ai dit, par contre, tu connais la vérité.
E in questo sei superiore a tutti quelli che non la sanno.
Et en cela, tu es supérieur à tous ceux qui ne connaissent pas la vérité.
Ma non ti devi accontentare, devi comunicare questa verità agli altri.
Mais tu ne dois pas te contenter de ça, tu dois communiquer cette vérité aux autres.
Devi fare le tue ricerche.
Tu dois faire tes recherches.
E partecipare a questa grande impresa collettiva che è quella di denunciare il complotto.
Et participer à cette grande action collective qui est de dénoncer.
Quindi il cospirazionismo ti dà una spiegazione per la tua condizione.
Donc le conspirationnisme te donne une réponse à la question de ta condition.
Ti fornisce una narrazione per criticare il potere, lo status quo.
Te fournit une narration pour critiquer le pouvoir, le statu quo.
Ti dà una missione da compiere.
Te donne une mission à accomplir.
Una causa per cui lottare.
Une cause pour laquelle lutter.
E una comunità insieme a cui farlo.
Et une communauté avec laquelle lutter.
È una cosa potentissima.
C'est une chose très puissante.
E una volta questo lo facevano i movimenti rivoluzionari.
Il y a une époque où c'était les mouvements révolutionnaires qui faisaient ça.
Ti davano un'analisi della società.
Qui te donnait une analyse de la société.
Una spiegazione della tua condizione.
De ta condition.
Un nemico da combattere, il nemico di classe, il capitalismo.
Un nemico di classe, le capitalisme.
E una comunità.
E une communauté.
Con cui farlo.
Avec qui le faire.
Allora, noi vediamo che il cospirazionismo è un movimento sostitutivo.
Alors, on voit que le conspirationnisme est un mouvement qui remplace quelque chose d'autre.
Limitarsi a dire come fanno i fact-checker, i debunker, i vari Taguieff, Conspiracy Watch, quello in cui credete è falso.
Se limiter à dire, comme le font Taguieff, Conspiracy Watch, les décrypteurs et tout ça c'est faux.
Manca il punto, non serve a niente e difende lo status quo.
Loupe l'objectif, ne sert à rien et défend le statu quo.
Bisogna interrogarsi su come esserci nel momento in cui ci si chiede perché la mia vita è così di merda.
Che vuol dire?
Esserci, essere lì quando le persone si chiedono perché la mia vita è così di merda, fornire risposte diverse da quelle che fornisce il cospirazionismo.
Il faut être là pour fournir des réponses différentes au moment où les gens se posent cette question-là.
E questa è un'impresa collettiva, non individuale.
Et ça, c'est une action collective, pas individuelle.
Non può essere un singolo scrittore a farla.
Ça peut pas être seulement un écrivain qui s'en occupe.
Perché spesso il problema di come parlare ai cospirazionisti è inteso in senso individuale.
Parce que souvent on se pose la question de comment parler aux conspirationnistes de manière individuelle.
In questo schema c'è un singolo individuo che crede alle fantasie di complotto.
Dans ce schéma il y a un seul individu qui croit aux fantasmes de complot.
E un'altra persona che si chiede come convincerlo a non crederci più.
Et une autre personne qui se demande comment le convaincre de ne plus y croire.
Ecco, invece io propongo di spostare il focus sulla dimensione sociale, collettiva.
Et moi je propose de voir ça de voir ça du point de vue de sa dimension sociale et collective.
Servono dei movimenti che colmino quel buco che il cospirazionismo colma a modo suo.
Il faut des mouvements qui viennent remplir ce trou et répondre que le conspirationnisme a rempli
à sa façon. Mi interrogo su quali potrebbero essere gli strumenti da fornire a questi movimenti.
Donc je me demande quels pourraient être les instruments à fournir à ces mouvements.
Ma, e quali concetti anche?
Quel concept aussi?
E si potrebbero anche fare degli esempi di tentativi, no, che vengono fatti oggi per fare questo.
On pourrait donner des exemples de tentatives pour faire ça justement aujourd'hui, qui ont eu lieu aujourd'hui.
Ma la cosa importante, la primissima cosa che dobbiamo fare è non pensare che i cospirazionisti sono gli altri.
Ma la prima cosa, la cosa la più importante, è di non pensare che i cospirazionisti sono gli altri.
Questa attitudine aristocratica, classista, arrogante, intellettualmente arrogante del debunking pseudo-illuminista.
L'attitude arrogante, classiste. Du debunking pseudo-lumière qui se réclame des lumières.
Et notre ennemi quanto il cospirazionismo.
Et notre ennemi autant que le conspirationnisme.
C'è una dialettica malata tra cospirazionismo e anticospirazionismo.
Il y a une dialectique malade entre conspirationnisme et anticonspirationnisme.
In Francia è molto forte questo anticospirazionismo in difesa dello status quo.
En France, l'anticonspirationnisme en défense du status quo est très fort.
Ma in Italia la situazione è molto simile.
Et en Italie, la situation est assez semblable.
Il y a un point que tu n'as pas abordé qui est pourtant essentiel là, c'est que c'est pas seulement avec des raisonnements qu'on peut combattre le conspirationnisme. C'est pas qu'une question de rationalité. C'est pas en disant ah oui, mais la rationalité c'est ceci, la rationalité c'est cela, en se posant, en représentant de la rationalité, ce que tu appelles le ratio suprématisme. Mais c'est aussi de combattre le conspirationnisme sur son terrain qui est celui de l'enchantement, c'est-à-dire de la capacité qu'a le conspirationnisme de donner une vision, de réenchanter le monde, de donner une vision qui est autre chose que la banalité qu'on présente comme la seule réalité possible.
Si, si. Il conspirationnisme est... Uso apposta questa parola. Il cospirazionismo è divertente.
Alors, je fais exprès d'utiliser ce mot. Le conspirationnisme est divertissant.
È affascinante.
È fascinant.
Appunto, mobilita la libido.
Il mobilise la libido.
Fornisce un senso di meraviglia.
Il donne un senso d'émerveillement.
Nel libro uso una categoria di Immanuel Kant per descrivere questo particolare senso di meraviglia che è il sublime dinamico.
Dans le livre, je fais référence à une catégorie de Kant pour parler de ce sens d'émerveillement qui est le sublime de Kant.
È quel tipo di emozione che provi di fronte a qualcosa di spaventoso che all'inizio ti paralizza, ma poi ti affascina.
C'est le sentiment qu'on ressent quand on est face à quelque chose d'effrayant et qui au début nous fait peur et nous paralyse mais après nous émerveille.
E Kant faceva l'esempio delle catastrofi naturali.
Kant donnait l'exemple des catastrophes naturelles.
Una grande tempesta.
Une grande tempête.
Un terremoto.
Un tremblement de terre.
E io invece faccio l'esempio di QAnon.
Et moi je donne l'exemple de QAnon.
Quando uno si converte a QAnon,
quand quelqu'un devient disciple de QAnon,
viene a scoprire, pensa di aver scoperto un quadro terrorizzante.
Il a l'impression d'avoir découvert un tableau terrorisant. Effrayant.
il mondo, mezzo mondo, è governato in segreto da satanisti.
La moitié du monde, le monde est dirigé par des satanistes.
Che fanno dei rituali sottoterra.
Qui font des rituels sous la terre.
Che bevono sangue.
Qui boivent du sang.
Donald Trump è l'eroe che li combatte.
Donald Trump è l'eroe qui les combat.
Questa cabal è responsabile di crimini atroci.
Cette cabale est responsable de crimes atroces.
Ma adesso io lo so.
Mais moi maintenant je le sais.
E quindi questo quadro che dovrebbe essere terrorizzante mi dà anche un senso di potere.
Mais alors maintenant ce tableau qui est effrayant me donne aussi un sens de pouvoir, de puissance.
E questo senso di potere mi dà anche quel minimo distacco per non esserne più paralizzato.
Et ce sentiment de puissance me donne le juste ce qu'il faut de détachement pour ne plus être paralysé.
E godermelo come una storia pazzesca.
Et d'en jouir comme d'une histoire folle.
QAnon è una sorta di romanzo collettivo scritto da migliaia di persone.
QAnon, c'est une sorte de roman collectif écrit par des milliers de personnes.
Con sottotrame.
Avec des tas de sous-trames, de sous-intrigues.
Che continua a espandersi.
Qui continue de grandir.
È come 100 serie televisive intrecciate tra loro.
C'est comme 100 séries télévisées liées entre elles.
E continuare ad alimentare queste narrazioni è un gioco anche.
E continuare a alimentare queste narrazioni è un gioco aussi.
È un gioco di massa.
C'est un jeu de masse.
Di persone che però credono a quello che finiscono per credere a quello che raccontano.
Mais de personnes qui finissent par croire à ce qu'elles racontent.
Però vedete che tutto questo ha a che fare con la meraviglia, con l'incanto.
Mais vous voyez que tout ça, ça a quelque chose à voir avec l'émerveillement, l'enchantement.
Gli esseri umani hanno bisogno di meraviglia e incanto nelle loro vite.
Les êtres humains ont besoin d'enchantement dans leur vie.
Perché vivono appunto delle vite spesso di merda.
Parce qu'ils vivent, comme je disais, souvent des vies de merde.
E di sicuro il razio suprematismo che ti dice questa narrazione è falsa perché non è logica.
Et donc sûrement le ratio suprématisme qui te dit que cette narration est fausse, elle n'est pas logique.
Non fornisce affatto incanto e meraviglia.
Ne fournit pas d'enchantement ni d'émerveillement.
Nel libro io parlo della sindrome dei come si dice in francese?
Dans le livre je parle du syndrome des perceurs de ballons.
Esatto.
De baudruche ou de ballon.
Il fact checker, il debunker.
Le fact checker, le debunker.
È come un adulto che a una festa di compleanno di bambini comincia a forare palloncini a farli scoppiare.
Joue le rôle de l'adulte qui arrive dans une fête d'enfants et se met à éclater tous les ballons.
Chiaramente uno così si rende odioso a tutti.
Quelqu'un qui fait ça se rend détestable aux yeux de tous.
E infatti i fact checker sono molto odiati.
Et de fait, les fact checkers sont assez détestés.
La sfida è quella di riuscire a produrre noi delle narrazioni che generino incanto e meraviglia, ma senza rinunciare all'analisi critica.
Donc nous, notre défi, c'est de créer des narrations qui apportent l'émerveillement sans renoncer à la pensée critique.
Spirito critica, analisi del potere e incanto e meraviglia devono coesistere.
Donc il faut faire coexister l'esprit critique, la critique du pouvoir et l'émerveillement.
E se noi vediamo la storia dei movimenti rivoluzionari ha sempre avuto narrazioni di questo tipo.
Et si on regarde l'histoire des mouvements révolutionnaires, il y a toujours eu des histoires de ce genre.
I movimenti rivoluzionari si nutrivano anche di aspirazioni utopiche.
Les mouvements révolutionnaires se nourrissaient aussi d'histoires utopiques.
Di sogni di una nuova società che era già presente sotto quella in cui viviamo.
De rêve d'une société idéale qui était déjà présente dans la société
e che sarebbe emersa grazie alla rivoluzione.
Et qui émergerait grâce à la révolution.
Poi si è scelto il disincanto, l'adesione al presente liberale.
Après on a choisi le désenchantement, l'adhésion au présent libéral.
E si è lasciato un buco esistenziale enorme.
Et on a laissé un trou existentiel énorme.
Che il cospirazionismo riempie in maniera geniale.
E che le conspirazionisme remplit de manière absolument géniale.
Nel libro mi chiedo come tenere insieme incanto e critica.
Donc dans le livre je me demande comment assembler enchantement et critique.
e come smontare il cospirazionismo in un modo che non sia quello dei debunker.
E comment démonter le conspirationnisme d'une façon différente de celle des debunkers?
Prendo degli esempi dall'arte, dalla letteratura, dalla magia.
Je prends des exemples, que je puisse des exemples dans l'art, dans la littérature, dans la magie.
Questo è anche un libro sui libri.
Ça c'est aussi un livre sur les livres.
Sul ruolo che ha la letteratura oggi.
Sur le rôle que joue la littérature aujourd'hui.
Anche sul ruolo che ha avuto la letteratura nel creare il cospirazionismo.
Et aussi sur le rôle qu'elle a joué à créer dans la création du conspirationnisme.
Ma anche su come la letteratura e la magia possono essere usati contro il cospirazionismo.
Mais aussi sur comment on peut utiliser la littérature et la magie pour lutter contre le conspirationnisme.
Je sais, il va peut-être falloir raccourcir, mais il y a rien, parce que je crois qu'il faut laisser un peu de place pour les interventions de la salle, non? Mais il y a quand même. Est-ce que tu peux répondre brièvement? J'aimerais bien que tu nous donnes l'exemple de Trieste. Comme étant un exemple de combat réussi contre le conspirationnisme. C'est pour nous donner un peu de courage dans l'époque merdeuse que nous vivons. Pour reprendre un de tes concepts merdeux.
Si. Nell'autunno scorso in Italia c'è stata una ondata di manifestazioni di massa contro il pass sanitario.
L'automne dernier en Italie il y a eu des manifestations, une vague de manifestations de masse contre le pass sanitaire.
Alcune situazioni locali erano molto ambigue e purtroppo egemonizzate da gruppi fascisti.
Donc certaines situations locales étaient assez ambiguës et malheureusement egemonizzate o dirigées par les fascistes.
Però spesso egemonizzate dai fascisti per colpa dei media.
Mais très souvent dirigées par les fascistes mais à cause des médias.
Erano i media che andavano a cercare i fascisti nelle mobilitazioni per intervistarli e per amplificarne l'importanza.
C'était les médias qui allaient chercher les fascistes dans les mouvements pour les faire entendre et pour amplifier leur importance dans les mouvements sociaux.
Così si è creata un'egemonia di immagine anche dove non c'era un'egemonia demografica vera e propria.
Donc on a créé comme ça une hégémonie imaginaire alors qu'il n'y avait pas d'hégémonie démographique à proprement parler.
A Trieste si è riusciti a impedire questo.
A Trieste on a réussi à empêcher ça.
Per più di due mesi, ogni settimana a Trieste c'è stata una manifestazione oceanica.
Pour plus de deux mois, il y a eu une manifestation toutes les semaines à Trieste, de dimension océanique.
E a un certo punto questa mobilitazione è culminata nell'occupazione del porto di Trieste.
Et l'apogée de cette mobilisation a été l'occupation du port de Trieste.
Il porto è stato sgomberato violentemente dalla polizia.
Le port a été évacué violemment par la police.
Questa mobilitazione ad un certo a un certo punto ha avuto su di sé tutti gli occhi del sistema dei mass media italiani.
Donc cette mobilisation pendant un moment a eu les yeux de tous les médias de l'Italie rivés sur elle.
Perché? Perché era una situazione difficilmente decifrabile.
Parce que c'était une situation difficile à déchiffrer.
Era difficilmente decifrabile perché sfuggiva alle facili etichettature.
Parce qu'elle fuyait, elle fuyait les étiquettes. Elle échappait aux étiquettes.
All'interno di quella mobilitazione era attivo un gruppo di compagni dei movimenti sociali italiani.
Donc dans cette mobilisation il y avait des camarades des mouvements sociaux italiens.
Che fin dall'inizio hanno deciso di star dentro in modo molto aperto.
Et qui dès le début de la mobilisation ont voulu en faire partie de manière très ouverte.
Cioè di non tollerare sicuramente fascisti e antisemiti.
Donc de bien sûr de ne pas tolérer les fascistes et les antisémites.
Ma di ascoltare chi nella mobilitazione proponeva fantasie di complotto.
Mais d'écouter ceux qui dans le mouvement proposaient des fantasmes de complot.
Senza respingerli, senza escluderli.
Sans les repousser, sans les exclure.
Senza demonizzarli.
Sans les démoniser.
Cercando sempre di reinterpretare le loro parole in chiave anticapitalistica.
En essayant toujours de réinterpréter leurs paroles en mode anticapitaliste.
E quindi prendendo questa narrazione diversiva e cercando di riportarla al suo nocciolo di verità.
Donc prenant la narration de diversion de ces gens-là et l'amenant à son noyau de vérité.
Grazie a questo lavoro molto generoso e molto faticoso.
Donc grâce à ce travail très généreux et très épuisant.
Questi compagni sono riusciti a tenere in piedi per settimane un'assemblea generale con molteplici identità all'interno.
Ils ont réussi à faire tenir une assemblée générale pendant plusieurs semaines avec une assemblée qui réunissait vraiment des mouvements très différents.
Che è entrata in difficoltà soltanto quando dal resto d'Italia sono arrivati a Trieste ondate di reazionari.
Qui a commencé à avoir quelques difficultés quand de tout le reste d'Italie sont arrivés des vagues de réactionnaires.
E anche in quel caso, però, il coordinamento è riuscito a rimanere in piedi.
Mais même dans ce cas-là, la coordination a réussi à rester sur pied.
Ed è sopravvissuto anche dopo lo sgombero del porto e dopo il calo fisiologico della mobilitazione.
Et elle a survécu à l'évacuation du port et à la baisse l'épuisement de.
Io faccio sempre un esempio di comunicazione che usavano questi compagni.
Donc j'utilise souvent un exemple de communication qu'ils ont utilisé, que les camarades utilisaient.
In un loro volantino il titolo era Grande reset o ristrutturazione capitalistica. Comunque tu lo chiami, parliamone in assemblea.
Un de leurs tracts était intitulé Grand reset ou ristrutturazione capitaliste, peu importe comment tu l'appelles, parlons-en.
Quindi c'era un tentativo di trovare il terreno comune con persone.
Bisogna dire che Grand Reset è un.
Sì, il Grande Reset è insomma è la narrazione cospirazionista della pandemia, secondo cui tutta la pandemia era stata pianificata da tempo.
Donc pour préciser, le Grande Reset en Italie, c'était une expression ici aussi. Une expression qu'on utilise voilà, dans le conspirationnisme pour définir la pandémie qui était censée être planifiée pour tout remettre à zéro.
Per appunto fare una grande reinizializzazione della società.
Pour refaire une réinitialiser toute la société.
Una reinizializzazione che c'è davvero.
Une réinitialisation qu'il y a effectivement.
Ma per avere una ristrutturazione capitalistica drastica non c'è bisogno di pensare a complotti universali.
Ma per fare una ristrutturazione capitalista non abbiamo bisogno di fantasmi e di complot.
Perché è come funziona il capitalismo.
Perché il capitalismo funziona come ça.
Il capitalismo sfrutta i disastri e coglie la palla al balzo.
Il capitalismo profita dei disastri, attrape la balle au bon.
E significa sopravvalutare il nemico, pensare che la pandemia sia stata pianificata completamente dall'inizio.
C'est surévaluer l'ennemi, surestimer l'ennemi que de penser que la pandémie a été planifiée à l'avance.
Ad ogni modo, questi compagni non hanno escluso chi pensava questo.
Quoi qu'il en soit, les camarades en question n'ont pas exclu les gens qui pensaient ça.
Perché il punto era essere contro il pass sanitario e la gestione neoliberale della pandemia da parte del governo.
Parce que en fait, il fallait s'opposer au pass sanitaire et à la gestion néolibérale de la pandémie.
Questi compagni non sono stati direttamente ispirati dal mio libro.
Donc, ces camarades n'ont pas été inspirés directement par mon livre.
Perché probabilmente la situazione a Trieste era già matura per questo.
Parce que probablement à Trieste la situation était prête pour ça.
Però l'hanno letto.
Mais ils l'ont lu.
E discusso.
Ils en ont parlé.
Si può dire che la mobilitazione di Trieste e il mio libro vengono fuori dalla stessa riflessione.
Et on peut dire que le mouvement à Trieste et mon livre naissent de la même réflexion.
Qualche settimana fa la più grande fabbrica di Trieste, una fabbrica di motori per navi.
Il y a quelques semaines de cela, une des plus grandes industries, une des plus grandes usines de Trieste, une usine de fabrication de moteurs pour bateaux,
è stata chiusa da un giorno all'altro dalla multinazionale finlandese che la possiede.
A été fermée d'un jour à l'autre par la multinationale finlandaise qui la possède.
200 operai sono stati licenziati.
200 ouvriers ont été licenciés.
E perché vogliono rilocalizzare la fabbrica in Finlandia?
Parce qu'il faut relocaliser l'usine en Finlande.
E la fabbrica è stata completamente smontata.
L'usine a été complètement démontée.
Sono state tolte anche le lampadine.
Ils ont enlevé aussi les ampoules.
Chiaramente in città c'è stata una mobilitazione contro questo modo di trattare i lavoratori.
Donc dans la ville il y a eu un mouvement contre cette façon de traiter les travailleurs.
Succede spesso in Italia che centinaia di lavoratori vengano licenziati con un messaggio su WhatsApp.
Il arrive souvent en Italie qu'une centaine de travailleurs soient mis à pied par un message sur WhatsApp.
In una frazione di secondo la tua vita si capovolge completamente.
En une fraction de seconde, ta vie est renversée.
Et quindi c'è stata una nuova grande mobilitazione a Trieste.
Il y a eu une nouvelle mobilisation à Trieste.
Che però si è costruita anche sulle basi della mobilitazione contro il pass sanitario dell'anno scorso.
Qui s'est construite sur les bases du mouvement contre le pass sanitaire.
Perché ha sfruttato reti che già esistevano.
Parce qu'elle a profité de réseaux qui existaient déjà.
E alleanze tra laboratori che si erano forgiate l'anno scorso.
Et d'alliances qui s'étaient forgées entre les travailleurs l'année dernière.
Un momento importante è stato quando i portuali, gli stessi che avevano occupato il porto contro il pass sanitario.
Un moment important était quand les dockers, ceux qui s'étaient qui avaient occupé le port contre le pass sanitaire l'année précédemment,
si sono rifiutati di caricare sulla nave i motori della fabbrica.
Ont refusé de mettre de charger sur les bateaux les moteurs de l'usine.
In solidarietà ad altri proletari licenziati.
En solidarité avec d'autres prolétaires mis à pied.
Ecco, alcuni di questi portuali sicuramente credono a fantasie di complotto.
Mais donc certains de ces dockers sûrement croient à des fantasmes de complot.
Ma anche grazie al lavoro fatto l'anno scorso questa cosa è meno importante.
Mais grâce au travail fait l'année dernière, cette chose est moins importante.
È più importante che lottino insieme agli altri.
Il est plus important qu'ils luttent avec les autres.
Era chiaro?
Bon, c'est donc c'est sur une note un peu concrète et un peu optimiste qu'on va peut-être terminer, mais s'il y a quelques réflexions, questions...
Du coup, la question que je me posais tout au long de cette présentation du livre, c'est finalement, est-ce que les récits de gauche n'ont pas trop disparu de nos sociétés ? Comme vous disiez tout à l'heure, un trou béant a été laissé par le désenchantement du monde. Et du coup, comment recréer des récits un peu universels et de gauche pour avoir une lutte de grande ampleur ?
Volevo préciser une question sur la question de incanto, disincanto, réincanto.
Je voulais préciser quelque chose sur la question de l'enchantement, le désenchantement, le réenchantement.
L'idéologie del disincanto che porta avanti il capitalismo.
L'idéologie du désenchantement qui est menée par le capitalisme.
È a sua volta una forma di incanto.
Est à sa façon une forme d'enchantement.
È un incanto cattivo.
C'est un enchantement mauvais.
È l'idéologia dominante.
C'est l'idéologie dominante.
È un incanto che ci porta, un incantesimo che ci porta a pensare che tutto sia quantificabile, misurabile.
C'est un enchantement qui nous fait croire que tout est quantifiable, mesurable.
Che ci ha portato a vivere in una gabbia di numeri.
Qui nous a mené à vivre dans une cage de chiffres.
In cui ogni cosa che facciamo diventa una performance, una prestazione.
Dans laquelle chaque chose qu'on fait devient une performance, une prestation.
In inglese si dice gamification, tutto diventa competizione, gara.
En anglais on dit on parle de la gamification, tout se transforme en compétition, en concours.
Noi contiamo i passi che facciamo durante la giornata.
Nous on compte les pas qu'on fait chaque jour.
E cerchiamo di battere dei record.
Et on essaie de battre des records.
In un'attività assolutamente normale e quotidiana che abbiamo sempre fatto da quando abbiamo imparato a camminare.
Dans une activité tout à fait quotidienne et normale qu'on fait depuis qu'on a appris à marcher, naturelle.
Questa eccitazione da record, questa eccitazione da competizione, ormai ha permeato tutta la realtà.
Cette excitation pour les records, pour les chiffres, se trouve dans toute la société maintenant.
E questo è successo anche grazie agli smartphone, è successo grazie ai social media.
E ça, c'est les smartphones et les social media, les réseaux sociaux qui ont aidé à faire grandir ça.
È successo grazie ai reality, ai talent show, alla televisione.
Ça s'est passé aussi grâce aux talent show à la télé-réalité.
Sono diventate competizioni a volte feroci anche le trasmissioni di cucina.
Sono devenues maintenant même des concours féroces même pour la cuisine.
Gare di pasticceri che sono diventate delle guerre.
Des guerres entre pâtissiers qui sont devenus non des concours entre pâtissiers qui sont devenus des guerres.
Con giurie crudelissime.
Avec des jurys cruels.
Sui social, noi vogliamo avere più like.
Dans les réseaux sociaux, on veut avoir plus de like.
Vogliamo che i nostri video su YouTube abbiano più visite, di battano dei record.
On veut que nos vidéos sur YouTube aient plus de vues, qui battent des records.
Siamo vittime dell'incanto capitalistico che però viene propagandato come disincanto.
On est victime de l'enchantement capitaliste qui est présenté par la propagande comme un désenchantement.
E tutte le altre forme di incanto vengono diffamate dal capitalismo.
Et toutes les autres formes d'enchantement sont diffamées par le capitalisme.
Vengono chiamate irrazionalità, superstizione.
Le capitalisme les appelle irrationnel, superstition.
E questo è all'opera anche quando i debunker parlano del cospirazionismo.
E ça c'est à l'œuvre aussi quand les débunkers s'en prennent au conspirationnisme.
Molto spesso usano in maniera negativa l'espressione pensiero magico.
Très souvent ils utilisent de manière négative l'expression pensée magique.
Ma questo è pensiero magico.
Ils disent, c'est la pensée magique ça.
Ecco. L'incanto che noi dobbiamo cercare è un altro.
L'enchantement que nous on doit rechercher, c'en est un autre.
È quello che dà senso alla vita fuori e contro questa gabbia di numeri.
C'est celui qui donne un sens à la vie à l'extérieur et contre cette cage de chiffres.
Fuori e contro la gamification e la competizione.
Or et contre la gamification et la compétition.
Contro il principio di prestazione.
Contre le principe de prestation.
Quindi questa deve essere la premessa Donc al
c'est
reincanto.
Ça, c'est ça la premessa au réenchantement.
Poi su come fare praticamente, nel libro io non ho una ricetta da dare.
Non, sur la question de comment faire en pratique, dans le livre je n'offre pas de recette.
L'esempio di Trieste che ho fatto ci fa vedere che quando la dimensione è collettiva questa cosa è più facile.
L'esempio di Trieste nous montre che quando la dimensione è collettiva è più facile
di
fare ça.
Nel libro io ho cercato di fare un inventario di concetti e di strumenti utili.
Dans le livre j'ai essayé de donner un inventaire de concepts et d'instruments utiles.
Che i movimenti à venir possano utilizzare.
Que les mouvements à venir pourraient utiliser, peuvent utiliser.
Tout le monde est en train de bouillir. On va peut-être s'arrêter là.
Merci beaucoup. Merci. Merci.
C'était Rencontre avec le collectif Wooming 1 autour du livre Q comme complot, comment les fantasmes de complot défendent le système aux éditions Luxe.
Radio Livre d'Armée.